Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles sur la page qui s'appelle aussi Radicaux Libres, mais où ça? Et bien sur le site radioalpa.com, bien sûr. On aurait pu vous parler de Nicolas Sarkozy, si, souvenez-vous, un mec avec des talonnettes qui veut se faire passer pour plus grand qu'il n'est, mais qui était le plus petit de nos grands hommes. Président de la République de 2007 à 2012, avant, il avait été ministre de l'Intérieur, il avait été maire de Neuilly, il avait été quelqu'un d'important. Eh bien, il est accusé de corruption et le procès en appel est en cours actuellement. Le jugement aura lieu en novembre prochain. Sans aucune transition, ah oui, c'était court, on aurait pu vous parler de la loi Sapin 2. En 2016, le Parti Socialiste avait fait passer une loi sur la transparence et la lutte contre la corruption. Dans cette loi était créée une agence française anticorruption. L'un de ses objets à cette agence française anticorruption, l'AFA, était de produire de l'information sur la corruption en France. Un premier rapport apparu en 2022. Et il indiquait que les atteintes à la probité, c'est-à-dire la corruption, le détournement de fonds ou de biens publics, la prise illégale d'intérêts, le délit de favoritisme, le trafic d'influence et la concussion, ah, c'est très joli, hein, concussion, eh ben, c'est moche en fait. Ce premier rapport qui fait donc l'état des atteintes à la probité entre 2016 et 2021. Il a paru en 2022 et il montrait qu'il y avait une augmentation de 28% entre 2016 et 2021. Eh bien, le deuxième rapport est sorti fin avril 2026 et il fait état, lui, d'une augmentation, d'une hausse de 45% de ces atteintes à la probité entre 2022 et 2025. Alors, bah, c'est toujours pareil avec ce genre de stats. A-t-on affaire à une réelle hausse où les victimes se font mieux connaître auprès des autorités ? Dans le rapport, une enquête déclarative appelée VRS montre que 188 000 personnes assurent avoir été confrontées à une atteinte à leur probité. Mais ce sont seulement 1700 affaires qui se sont retrouvées devant la justice, soit moins de 1% de tous les gens qui se sont retrouvés dans des situations où leur probité était attaquée. Donc même si les victimes ne se font plus connaître, la réalité est finalement bien plus importante que les chiffres récoltés par l'AFA. À noter que les deux tiers des affaires concernent des agents du public. Eh ben ouais, ils peuvent faire quelque chose. Eh, tu me mets en haut de la pile, eh. Tiens, ben, par exemple, les cas récents de flics qui revendent des infos tirées des innombrables fichiers à des délinquants font partie de ça. Et les affaires concernant les élus ont presque doublé, passant de 52 à 98 entre les deux périodes suscitées. Mais on sait très bien, comme je vous l'ai dit, que c'est totalement sous-estimé. Sans transition aucune, on aurait pu vous parler de Caroline Cayeux. Caroline Cayeux, c'est l'ancienne mairesse de Bayeux, qui fut ministre des collectivités territoriales en 2022, avant de démissionner, rattrapée par la sous-estimation de son patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a reconnu sa culpabilité en 2026 et elle a profité de la loi qui permet de négocier avec la justice pour éviter un procès. Le 1er avril 2026, elle écope donc de 10 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Oui, parce que le simple fait de sous-estimer son patrimoine ne vaut pas tout ça. Mais cette sous-estimation lui a permis de payer moins d'impôts. Elle avait quand même oublié de déclarer 11 millions d'euros de patrimoine pour un ensemble de biens, surtout immobiliers, qui est estimé, lui, à près de 25 millions, selon un article du journal Libération. Pourquoi en parler maintenant ? Eh bien, parce que Caroline Cayeux sort de son silence et s'exprime dans la presse. Eh bien, elle risque d'avoir d'autres occasions de s'exprimer, puisqu'elle est accusée par son chauffeur d'avoir confondu les véhicules de la ville de Beauvais, où elle était maire. Eh, Beauvais-Bayeux, faudra vérifier, hein. J'ai l'impression que je me suis un petit peu craqué là sur le B. Donc elle avait quand même confondu les véhicules de la ville, peu importe laquelle, avec sa bagnole à elle. Le tout en 2017, quand elle soutenait François Fillon à l'élection présidentielle. Y a pas de hasard. Politiquement, Caroline Cayeux avait quitté le parti des honnêtes gens, les Républicains, pour intégrer le parti de la République exemplaire, La République En Marche. C'est terrible, hein. Une question me taraude, mais qu'est-ce qui peut bien pousser une personne qui est riche à millions à frauder le fisc ? La peur de manquer, la volonté de laisser à ses enfants le plus possible. Ah ouais, mais comme elle va mourir vieille. Ah, j'ai pas de réponse. Si vous avez des avis documentés, n'hésitez pas à c'estpasmoi@no-log.org. Donnez-moi de l'argumentaire, parce que là, je suis sec. Éloignez les enfants. Je vais passer un hymne à la gloire d'un vieux barbon partisan de la collaboration avec les nazis. Oui, il a été au pouvoir entre 40 et 44 dans un pays qu'on n'appelait plus la République française, mais l'État français. C'est... Ouais, la patrie renaîtra et blabla et blabla. Et ben ça, c'était passé dans les écoles, par exemple. Hein. Ça, c'était passé aussi dans les meetings de la milice. Bah, tout va bien. Et donc, ce son qui est donc maréchal, le nous voilà, et bien, il était dans les rues de Carpentras le 8 mai 2026. La chanson sortait des haut-parleurs installés par la municipalité. La mairie passait au RN en 2026 avec à sa tête Hervé de Lepineau, qui est donc anti-avortement, opposé au mariage pour tous, avocat de l'AGRIF, une association qui lutte contre le racisme anti-français et anti-chrétien, qui est surtout en fait une association de promotion d'une France chrétienne, tradie et sociétalement totalement conservatrice. Eh bien tiens, exactement comme Pétain et sa révolution nationale pendant l'occupation nazie entre 40 et 44. Donc monsieur Hervé de Lepineau se défend. Ah oui, ben rassurons le bourgeois et les éditorialistes qui contestent la présence de fascistes dans le pays. Tout est de la faute de la radio associative locale qui n'a pas vérifié sa playlist. Ouf, moi j'ai flippé. Hein. Sans aucune transition, on vous annonce la création de link-ed.info. Alors attention, ça ferait linked.info, c'est-à-dire lié quoi en anglais. Ouais, il vise l'international, j'ai l'impression. Donc L-I-N-K. Le tiré du 6, ed.info, un site qui vise à cartographier l'extrême droite et donc de faire des liens entre les différentes composantes. Un outil complémentaire au travail que fait la Horde, portail méchamment antifasciste comme ils le disent eux-mêmes, qu'on peut trouver sur lahorde.info. Donc linked.info est proposé entre autres par Ricardo Parera, dont nous avons déjà parlé pour son travail de collecte d'informations sur les symboles d'extrême droite, visibles bah, dans la police, lors des manifestations, etc. Et c'est trouvable sur indextrême.fr. Eh, vous ne pourrez pas dire « Ah ben mince, on ne savait pas ». Non, parce que si vous allez voir lahorde.info, si vous allez sur link-ed.info, si vous allez sur indextrême.fr, vous aurez des exemples à foison de la présence de fascistes néo-nazis dans notre beau pays. Eh, voilà. Vous pourrez pas dire, mince, on savait pas. On aurait pu vous parler du business politique de Raphaël Glucksmann. Ah, il va falloir qu'on trouve un moment pour vous le présenter, celui-là. Hein. Et puis, bah, tous les autres libéraux qui ont une carrière à faire et se font passer pour des gens de gauche. Mais finalement, on n'a pas le temps. On aurait pu vous parler de la loi sur la fraude fiscale et sociale qui est dans les tuyaux parlementaires pour, en fait, lutter contre les pauvres. Parce que le volet fraude, lutte contre la fraude fiscale, il n'est pas très, très important. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler d'agriculture et d'alimentation. Le monde agricole a pour objet de nous nourrir, même si les libéraux y voient surtout une opportunité pour faire de l'argent. Ben oui, eux appellent ça créer de la valeur. Les pauvres, la seule valeur qu'ils proposent, c'est celle du pognon. Cet objet nourrir la population n'est pas assuré tant une partie de la population, qu'elle soit locale, nationale ou mondiale, n'a pas accès à une nourriture en quantité suffisante ni en qualité suffisante. À l'occasion de la crise inflationniste débutée en 2022, oui, ça court toujours, les médias sont allés à la rencontre de Pékin moyen qui expliquaient leur façon de choisir ce qu'ils mangent. Le coût apparaît clairement comme le critère principal. Il en est de même pour ceux qui ne choisissent pas et doivent se contenter de l'aide alimentaire. Une aide alimentée par les dons des entreprises, de la grande distribution, en produits en date courte, en clair, ce qui ne se vend pas bien et n'est pas forcément du goût des bénéficiaires. Organiser un accès à une alimentation choisie devient alors un combat pour la dignité de tous. Aussi, des militants ont eu l'idée de copier le système de la sécurité sociale, bon, première version, hein, quand c'était beaucoup plus démocratique, entre 45 et 67, pour que soit créée une sécurité sociale de l'alimentation. La dernière fois, nous avons entendu Paul Froger. Eh ben, tiens, petite incise pour qu'il se représente.
Moi, je m'appelle Paul Froger, je suis animateur à la Confédération Paysanne et à l'ADR d'Indre-et-Loire. Et depuis 4 ans, je développe des projets autour de la sécurité sociale de l'alimentation, donc en Touraine et notamment à Tours.
Donc Paul Froger participe à la lutte pour une alimentation choisie au sein du collectif SSA 37, SSA pour Sécurité sociale de l'alimentation. Sécurité sociale de l'alimentation dont nous avons appris qu'elle avait pour but de socialiser l'alimentation à la manière de la socialisation de la santé avec la Sécu. La SSA s'appuie sur 3 grands principes et en premier lieu l'universalisme, comme nous l'explique d'ailleurs Paul Froger. À propos d'universalité, ça fait partie des 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. Cette universalité, ça veut dire qu'on évitera de stigmatiser des personnes en disant « toi, tu n'y as pas droit parce que peut-être tu es trop riche, par exemple ».
On s'inspire de la sécurité sociale de santé, on a tous une carte vitale dans notre poche et personne ne se sent assisté, honteux, quand on va chez le médecin, d'avoir accès à cette solidarité nationale. Parce que c'est un droit universel, on l'a tous et toutes, et du coup, il y a aussi cette idée que c'est des droits qui sont plus solides, même si la sécurité sociale de santé, elle est attaquée constamment de diverses manières. Il y a quand même cette idée qu'un droit pour les pauvres est souvent un pauvre droit, qui est beaucoup plus facilement attaqué, où on va petit à petit réduire, pointer les gens du doigt, contrôler. Et donc nous, on veut éviter ces dynamiques de stigmatisation, de honte sociale, de sentiment d'être assisté, de charité, et de reconstituer un droit à l'alimentation qui soit universel. Et donc en effet, la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est un budget dédié par personne. À un moment, il y a donc le chiffre de 150 euros par mois par personne qui avait été posé. Mais ça, ça concernera tout le monde. Même les personnes qui ont 5000 euros par mois auront droit à leurs 150 euros par mois par personne comme budget dédié à l'alimentation. Sauf que, comme pour la santé, ces personnes sûrement auront des cotisations plus élevées et du coup participeront à la hauteur de leurs moyens à cette redistribution-là.
L'entraide, la coopération, eh ben c'est pas la charité, c'est pas le fameux ruissellement qui nous est vendu par nos élites soi-disant intellectuelles, qui ont un tout petit souci avec cette notion, qui veulent en fait garder tout le pognon pour eux, toute la richesse pour eux, parce qu'il n'y a pas que du pognon dans la richesse, et puis éviter de la partager. Eh bien, toutes ces notions dégradantes comme la charité, le ruissellement et infantilisantes, imaginées par les puissants pour nous garder en état de continuer à produire des richesses qu'ils accaparent, tout ça serait battu en brèche par justement la mise en œuvre de l'entraide et la coopération. À l'inverse, en passant par la cotisation, les plus riches redistribuent leurs richesses, rééquilibrent un petit peu l'anomalie de l'exploitation des humains et du reste du vivant par d'autres êtres humains. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, comme disait l'autre. Justement, l'idée de cotisation est un autre pilier de la sécurité sociale de l'alimentation.
Le deuxième pilier, c'est justement que c'est basé sur des cotisations à l'instar de la sécurité sociale. Donc, de fait, c'est de chacun selon ses moyens. On participe parfois un peu plus à la sécurité sociale que ce qu'on en retire, dans le sens où on n'est pas assez malade, où on n'est pas assez en retraite, où on n'est pas assez ceci. Est-ce que ce serait pareil pour le système de sécurité sociale de l'alimentation ?
Tout à fait, c'est le principe de la cotisation. Chacun participe en fonction de ses moyens, avec l'idée aussi de se dire que quand la sécurité sociale de santé a été développée, il n'y avait pas autant de numérisation et de robots qui travaillaient et qui produisaient aussi de la valeur maîtrisée par quelques-uns, genre par les gens qui ont le capital. Et du coup, c'est aussi une cotisation qui peut être retravaillée avec l'idée d'inclure l'ensemble de la valeur produite, pas uniquement sur le travail humain. Et la valeur qu'on produit collectivement, on en met une partie en commun. C'est vraiment le système là de la cotisation comme pour la santé.
Élargir l'assiette des cotisations au capital productif dans son ensemble. Ouais, machines, robots, intelligence ceci, intelligence cela. On sent bien qu'il y a un peu plus de socialisme que de libéralisme économique dans la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation, comme c'était le cas d'ailleurs lors de la création de la Sécu en 1945. Un troisième pilier nous est expliqué par Paul Froger.
Et le troisième pilier, c'est le conventionnement organisé démocratiquement. Quelle est l'idée ?
Les trois piliers sont importants, mais la question de la démocratie, c'est-à-dire que une fois qu'on a sécurisé un budget pour les personnes, 150 euros par mois par personne, ça représente 120 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget alimentaire global en France. 120 milliards d'euros par an, on peut ensuite les flécher pour aller soutenir un système alimentaire désirable, pour pouvoir décider démocratiquement de comment on veut produire, comment on veut transformer, comment on veut distribuer cette nourriture, pour faire en sorte que ça correspond à des objectifs vertueux pour notre société, que cette production, notre système alimentaire, entretienne les écosystèmes, ne pollue pas les sols, ne pollue pas les eaux, ne contribue pas au réchauffement climatique. Ça pourrait être des critères. Rémunère dignement l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la chaîne alimentaire. Ce conventionnement, il faut qu'il y ait une décision démocratique, ça concerne tout le monde. Vraiment, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que l'agriculture et le système alimentaire en général, ça concerne tout le monde, c'est pas que un choix de professionnel. On parle de nos paysages, on parle de notre eau, on parle de nos sols. Donc on est tous et toutes concernés. Et donc ça, on s'inspire à la fois de la sécurité sociale de santé qui en effet avait des caisses locales maîtrisées au départ, notamment par les ouvriers et les ouvrières, et donc qui faisaient des choix de remboursement, de taux de remboursement, de conventionnement. on est aussi assez inspiré par la Convention citoyenne pour le climat, en se disant, en fait, si on donne du temps à des personnes pour comprendre, pour s'informer, du temps de qualité, pour avoir, on va dire, en connaissance de cause, et bien ces personnes feront des choix qui seront des choix d'intérêt général. Et donc, c'est le principe, la sécurité sociale de l'alimentation, il y aura des caisses de conventionnement qui flécheraient ces 120 milliards en disant, certes, il y a 150 euros par mois par personne, mais on ne peut les utiliser qu'auprès de tel magasin, auprès de tel produit, auprès de tel producteur. Et bon, ça, c'est très large. C'est encore en débat sur comment ce conventionnement fonctionnerait, quoi.
C'est le problème avec la démocratie, c'est qu'à partir du moment où on demande à la population de décider, on ne peut pas arriver avec un plan tout fait, hein, Raphaël Glucksmann. Pour l'instant, c'est la main invisible du marché qui oriente la manière de produire. Et comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, c'est surtout la course aux productions rémunératrices pour bon nombre d'exploiteurs agricoles qui les motive. La décision n'est pas démocratique. Le peuple qui est le consommateur des produits n'a pas vraiment de voix au chapitre. Finalement, ce sont des campagnes de pub, des modes, des émissions de télé-réalité qui oriente nos achats. Et bien sûr, le prix, rien de bien raisonné. Alors, qu'à l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat et celle de la fin de vie, si la démocratie existe, la population, habituée à s'informer, débattre et décider, n'aura aucune difficulté pour organiser la production, la transformation et la distribution des aliments choisis. C'était l'objet de la sécurité sociale avec la santé, jusqu'à ce que nos soi-disant représentants modifient les règles et réduisent drastiquement la présence des assurés dans les décisions. Ça s'est passé dans les années 50 et 60. Pour connaître le sujet, on lira avec intérêt le bouquin de Nicolas Da Silva, paru en 2022 aux éditions de La Fabrique et qui est intitulé « La bataille de la sécu ». Ouais, c'est intéressant. Revenons à la sécurité sociale de l'alimentation. Elle n'existe pas nationalement, mais des tas d'expérimentations sont en cours que vous pouvez suivre en direct sur le site sécurité-social-alimentation.org, sans accent bien sûr. Paul Froger nous parle justement de ces expérimentations.
Concrètement, comment ça peut marcher? Il y a des exemples un petit peu partout en France, puisque la cotisation n'est pas récupérée nationalement. Qui est-ce qui s'occupe de récupérer des cotisations? Quels publics sont concernés, etc.
Oui, il y a des expérimentations partout en France qui se mettent en place pour tester l'idée, pour la faire vivre. Avec aussi, pareil, on s'inspire, on se dit la sécurité sociale de santé. Derrière, il y a plusieurs décennies d'expérimentation, de mutuelles ouvrières, de gens qui ont testé des choses. Et c'est à un moment où le rapport de force était en la faveur de ces personnes-là qu'a pu se généraliser un système à l'échelle nationale. Donc on se dit que nous, en attendant de pouvoir avoir un rapport de force, et ça permet aussi de le construire, il faut qu'on teste des choses à l'échelle de quartier, de ville, etc. Et il y a en effet des villes qui testent des caisses communes de l'alimentation, donc où les gens cotisent entre, par exemple, 1 et 100 ou 1 et 150 euros. Les gens mettent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Tout le monde a accès à 100 ou 150 euros qu'il va pouvoir utiliser dans certains magasins. Donc on se rapproche vraiment très proche de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle est présentée. Vu que on ne peut pas lever une cotisation de façon obligatoire. On ne peut pas obliger, par exemple, des grandes entreprises ou autres à être solidaires dans ce système-là. Donc la différence, elle est souvent couverte par des systèmes de subventions et du coup des gens qui cotisent plus et des gens qui cotisent moins. Voilà comment ça fonctionne du côté financier. C'est des systèmes universels. Après, il y a une place limitée par ce montant de la subvention. À Montpellier, je crois qu'ils étaient 400 ou 500 au départ. Ça continue d'augmenter. Et les personnes qui ont très peu cotisent 1 euro et reçoivent 100. Les personnes qui ont plus d'argent cotisent plus. Et du coup, l'ensemble des personnes du dispositif ont accès à une alimentation de qualité, à certains magasins auxquels ils ou elles n'avaient pas accès avant.
Quel est le rôle des collectivités territoriales dans cette organisation?
Un des rôles, c'est notamment celui de soutenir ces expérimentations, en fait, de soutenir les dynamiques citoyennes, et notamment par de la subvention. Et donc si on veut soutenir ces expérimentations, une des façons de redistribuer, c'est de flécher une partie de l'argent des collectivités, de l'argent du coup des impôts, via des subventions pour le fonctionnement de ces expérimentations.
Il faut donc pour l'instant compter sur la redistribution de la part des collectivités territoriales, les communes, les com-com de tout type. les départements, les régions, et ça sous forme de subventions. Dans ce cas, des subventions sans doute mieux utilisées que pour financer des clubs de balle au pied professionnels qui promeuvent la compétition et l'attachement aux couleurs. La SSA aura aussi pour bénéfice d'assurer vraiment le droit à l'alimentation comme défini dans le Programme National pour l'Alimentation, le PNA. Le numéro 4 qui a été présenté début avril. Ah, vous êtes passé à côté, bah, c'est normal. Il y avait la guerre je ne sais pas où, et puis il y avait sûrement une influenceuse qui avait un truc à dire. Le PNA, donc numéro 4, a été présenté début avril par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Et pour mieux la connaître, on vous conseille encore de lire l'article de Marie Astier paru en septembre 2024 sur le site reporter.net. Dans ce PNA 4 sont indiquées des mesures. Ah, des mesures, en veux-tu, en voilà. Comme par exemple la mesure 5 de l'axe 2. Production technocratique pur jus, le PNA 4 est très très structuré. La mesure 5 de l'article 2, elle a pour objet, je cite, mesure 5, promouvoir l'accessibilité physique et financière de l'offre alimentaire saine et durable, notamment via la restauration collective et l'aide alimentaire. Et pour promouvoir il y a toujours marqué promouvoir, favoriser, comme ça, ça n'engage pas véritablement, ça mange pas de pain. Et bien pour promouvoir, les auteurs du PNA 4 utilisent l'article L266-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, un article qui explique ce que vise la lutte contre la précarité alimentaire, à savoir, attention, article de loi officiel qui engage nos soi-disant représentants, favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. La notion de choix est bien là, cette capacité à agir pour soi-même. Alors en quoi l'aide alimentaire doit être dépassée, et notamment par la SSA, pour justement accéder à cette idée de choix? Paul Froger du collectif SSA 37 nous en dit plus.
Il y a l'idée, par exemple, de dépasser l'aide alimentaire. Quel est le problème politique qu'on pourrait trouver à l'aide alimentaire ?
Il y en a plusieurs. En effet, la sécurité sociale de l'alimentation, elle vient remettre en cause le système de l'aide alimentaire. Bien sûr, on ne parle pas du travail bénévole de plein de gens qui font en sorte que les gens ne meurent pas de faim dans ce pays. Et heureusement qu'ils ou elles font ce travail énorme de récupération, de tri, de distribution. Néanmoins, on voit que le système de l'aide alimentaire, en fait, c'est un système d'urgence, et que l'État, il se cache justement derrière ce système d'urgence qui fait que personne ne meurt de faim dans ce pays, mais pour ne pas garantir un vrai droit à l'alimentation. Ça n'a rien à voir, en fait, l'aide alimentaire et le droit à l'alimentation, parce que l'aide alimentaire, c'est une sécurité en termes de calories, mais ce n'est pas un accès digne, un accès régulier à une alimentation choisie par les personnes. C'est les travaux de Bénédicte Bonzi. L'aide alimentaire, elle crée de la violence alimentaire, des sentiments de honte, des sentiments de parfois de ne pas pouvoir avoir accès à une alimentation qui respecte ses choix, ses envies. Ce n'est pas le droit à l'alimentation. Il y a une autre critique qu'on peut faire aussi à l'aide alimentaire, plutôt du côté, par exemple, agriculture paysanne, c'est qu'en fait, c'est un des piliers des politiques agricoles françaises. Ça peut représenter plusieurs milliards d'euros. On additionne tout. De produits distribués, subventionnés par du travail gratuit bénévole, par la défiscalisation des dons. L'aide alimentaire, elle a été liée dans nos politiques publiques à la problématique du gaspillage alimentaire. Et donc on voit que ça vient soutenir en fait un système de surproduction. L'agro-industrie, les énormes fermes peuvent produire autant qu'elles veulent, en sachant que leur surproduction, qui va leur poser problème, eh bien, ça va être géré à la fois en termes de tri. Avant, la grande distribution devait gérer ces déchets. Ces déchets sont gérés bénévolement par les gens qui vont faire le tri et par les communes qui ne vont pas faire payer l'enlevage des déchets au Resto du Cœur. Et par la défiscalisation en plus de cela, c'est un système qui vient soutenir plutôt un modèle agro-industriel de surproduction, en disant s'il y a du gaspillage potentiel alimentaire, on a une solution, il y a les personnes précaires, vu qu'elles n'ont pas le choix. Eh bien, on va leur refourguer les tonnes de poireaux ou d'endives ou de danettes ou de je ne sais quoi juste après leur date de péremption. Et donc, on voit que c'est un système qui ne vient pas du tout soutenir une agriculture paysanne ou autre, mais plutôt entretenir un modèle de surproduction agro-industrielle, quoi.
Et oui, les dons des entreprises sont défiscalisés à 60%. Et oui, les frais de tri et d'enlèvement reviennent finalement aux associations. Et oui, les capitalistes ne peuvent pas s'empêcher de faire du pognon, même quand ils semblent altruistes. Tout est bien sûr codifié dans la loi Garot de 2016 et dans celle sur l'économie circulaire de 2020, dont on a déjà parlé, cette arnaque de l'économie circulaire. À propos de la perversité de la philosophie libérale et de son application capitaliste, on lira Dany Robert Dufour, par exemple « Baisse ton prochain », une histoire souterraine du capitalisme. C'est édifiant. Dans le son précédent, il est fait référence aux travaux de Bénédicte Bonzi. Bénédicte Bonzi fait de l'anthropologie sociale. En clair, elle s'intéresse aux groupes humains, donc aux sociétés, et à leur fonctionnement. Avant ça, elle a travaillé dans le social, et là, social veut dire plutôt aide aux nécessiteux, comme on ne dit plus. Elle était aussi bénévole, notamment au Resto du Cœur. Elle a écrit « La France qui a faim », édité en 2023 au Seuil, où elle dissèque le monde de l'aide alimentaire, dont les places et rôles des bénéficiaires, donc les bénévoles également, la place des bénévoles, donc la place des entreprises et de l'État. Elle aborde aussi forcément l'idée du don. Mais comme le capitalisme est passé par là, on retrouve toujours la présence d'un marché. Et par exemple, page 355, on peut lire une petite partie qui s'intitule « État des lieux d'un marché de la faim ». Je cite « Si le système de l'aide alimentaire a prouvé une réelle efficacité par un développement impressionnant ces 30 dernières années et a été qualifié d'efficient, là c'est mis entre guillemets pour citer par la Cour des comptes dans son rapport de 2009, il est aujourd'hui soumis à d'importantes modifications. Il est structurellement orienté dans le cadre d'un marché formel où la force de la production va être utilisée et réutilisée jusqu'à disparaître. En plus d'être efficace, le système de l'aide alimentaire reçoit l'injonction de se développer pour répondre aux besoins du marché en absorbant ses surplus. Cela doit permettre à l'aide alimentaire d'augmenter ou de stabiliser son approvisionnement en réduisant ses coûts. Les règles propres au marché, appel d'offres, libre concurrence, respect des règles d'hygiène, traçabilité des aliments, etc., sont en train de devenir les normes et fixent les conditions à l'exercice de l'aide alimentaire, comme l'illustre la loi Garot, qui interfère dans le circuit du don par le fait de contractualiser ce dernier, mais aussi par la perte de liberté des organisations. Celles-ci n'ont plus seulement la charge de nourrir les personnes dans le besoin, mais aussi de répartir les surplus alimentaires. Ce qui est aujourd'hui proposé comme voie d'approvisionnement favorise la ramasse, qui coûte moins cher que l'achat de produits et impose de contractualiser l'échange entre le supermarché et l'association qui vient récupérer la nourriture. Comme cela est explicité, les ramasses ne garantissent aucune régularité dans le système d'approvisionnement. La source de provenance des denrées n'est pas anodine, de même que la manière dont les organisations constituent leur stock. Le lien recherché dans le don devient de cette manière de plus en plus fragile et précaire. Les choix ne sont pas neutres car ils consolident des liens marchands. Ce qui est visé n'est plus le don contre don, mais un dispositif de gagnant-gagnant. Distinguer les différentes valeurs, la valeur d'usage et la valeur d'échange des produits, renseigne sur les liens, leur origine et leur signification économique et politique. Eh ouais, ça devient moche en gros, quoi, avec cette histoire de don indirect. Ce marché du don indirect, du don à distance, est ensuite décrit dans le bouquin de Bénédicte Bonzi, « La France qui a faim », avec des chiffres officiels qui vont bien. Une lecture nécessaire hein, pour comprendre pourquoi la sécurité sociale de l'alimentation est largement préférable. Pour retrouver tous les arguments pour une sécurité sociale de l'alimentation, on vous conseille de récupérer la BD qui s'intitule « Encore des patates », commandable sur le site sécurité-sociale-alimentation.org. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Tiens, pour finir, j'ai demandé à Paul Froger du collectif SSA37 s'il avait quelque chose d'important à dire. Bah, devinez, il avait.
Je trouve que c'est important de garder en tête que c'est une idée plutôt ambitieuse, c'est une revendication politique, et que du coup, en fait, la question, c'est pas de juste disséminer des expérimentations par-ci ou par-là, mais c'est bien d'essayer de construire un rapport de force, de faire du lien entre le monde paysan et des habitants, habitantes, des gens qui ont envie de mieux manger. Il y a environ un tiers de la population qui est en situation d'insatisfaction alimentaire, qui ne mange pas exactement comme il ou elle aurait envie de manger. Et du coup, c'est ça l'idée finale, c'est d'avoir un rapport de force suffisant pour exiger que notre système alimentaire soit dirigé par des systèmes de démocratie, qu'on choisisse quel système alimentaire désirable on souhaite, plutôt que juste par des systèmes de marché qui poussent les prix vers le bas, qui font disparaître les paysans paysannes et qui détruisent nos écosystèmes.
Encore un démocrate. Ah ben décidément, heureusement qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Si vous voulez en savoir plus, sécurité-sociale-alimentation.org. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Vous voulez savoir quoi faire en ce moment? Eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour à l'Allumette, cette rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. N'hésitez pas non plus à aller sur larnapé.info. Allez, au revoir.